les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour Haïm Corsia.
Bonjour.
Vous avez choisi un mot qui me surprend, qui est le mot jumeau. Jumeau ou jumelle, je suppose.
Oui.
Mais enfin, jumeau. Dans la Bible, on le rencontre souvent. Il y a des jumeaux dans la Bible ?
On ne sait plus où les
plein,
mettre.
On ne sait plus où les mettre.
Il y a beaucoup de jumeaux.
Alors, des noms.
D'ailleurs, c'est assez logique d'une certaine manière, parce que dès qu'il y a des jumeaux dans une famille, il y a des probabilités pour qu'on en retrouve après. Bon, les jumeaux les plus célèbres, vous avez Caïn et Abel. Ils naissent jumeaux, les premiers.
Ils naissent jumeaux. Moi, je croyais qu'ils naissaient frères. Je n'avais jamais remarqué qu'ils étaient jumeaux.
Ils naissent.
Enfin, ils sont jumeaux.
Ils naissent,
bon.
En tout cas. Après, d'ailleurs, ils étaient tellement jumeaux que... Alors, certains disent jumeaux, d'autres disent pas jumeaux, mais chacun naît avec une sœur, jumelle.
Ah bon ?
Bah forcément, vous croyez qu'ils ont fait comment pour faire la
suite
du monde ?
Eh bien, ça, je ne sais pas. Justement, c'est une interrogation.
Ils naissent avec une sœur jumelle.
Mais on n'en parle pas.
Chacun naît avec sa jumelle. Et l'idée, c'est que chacun épouse la jumelle de l'autre.
Oui.
Mais Caïn a dit non. Certains expliquent que c'est la raison pour laquelle ils se sont bagarrés. Ce n'est pas une histoire uniquement de sacrifice, comme on nous raconte, machin. C'est que Caïn dit, il n'y a pas de raison que moi, je donne ma jumelle à Abel. Ben, moi, je veux les deux. Bon, après tout, déjà, les hommes se bagarrent pour les femmes. D'autres disent que c'est pour la terre, d'autres disent que le sacrifice pas accepté. Mais il y a plusieurs interprétations dans le Midrash, dans le commentaire allégorique du texte. Mais les jumeaux les plus célèbres sont évidemment Jacob et Ésaü. Alors là, c'est du costaud. Parce que non seulement on a des frères, les frères ont toujours eu des destinées assez étonnantes. Regardez par exemple, donc, Caïn et Abel, ça se termine mal pour l'un. Ishmaël et Isaac, les deux fils d'Abraham, se séparent. On va expliquer maintenant Jacob et Ésaü. Mais les enfants de Jacob, ils se déchirent entre eux. Il y en a 10 qui se liguent contre Joseph, ils le vendent en Égypte. Bref, ça se passe plutôt mal. Comme si on nous dit que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'une fraternité à reconstruire, à retrouver. C'est pas évident. Et d'une certaine manière, pour être honnête, c'est assez rassurant par rapport à nos familles qui, bon an, mal an, ont tous l'oncle un peu éloigné. Enfin, éloigné, parce qu'il s'est un peu bagarré avec les parents, le cousin qui est un peu en déliquescence.
La famille, c'est pas simple, quoi.
Voilà, la famille, c'est pas simple. Si je vous racontais l'histoire de la Bible à ma façon, vous verrez que franchement, on n'a pas trop à rougir de nos familles. Par contre, tous ces patriarches font des efforts pour faire vivre leur famille. Ils font des choix, des efforts. Et ça veut dire que nous aussi, on est dans la conscience d'une force et d'un engagement à essayer de construire une famille. On arrive aux jumeaux. Les jumeaux, c'est plus que des frères. C'est non seulement le même père, la même mère, mais c'est le même instant. C'est-à-dire la même volonté, presque. Or, les jumeaux sont radicalement différents. Et l'histoire de la Bible, dans la Genèse, est assez étonnante. Voilà cette fille, Rebecca, qui a des soucis pour avoir des enfants, comme toutes les matriarches et tous les patriarches. Et qui prie pour avoir des enfants, ça ne marche pas. Isaac, son mari, prie, ça ne marche pas. Alors, Isaac prie pour que Rebecca ait des enfants, même si c'est sans lui. Et Rebecca prie pour que j'accueille Isaac ait des enfants, même si c'est sans lui. C'est-à-dire, vraiment, c'est l'altruisme. C'est « je veux que toi, tu sois heureux ». Et finalement, Dieu entend leur prière, elle est enceinte. Et elle n'arrive pas à comprendre quelque chose. Midrash raconte que cette femme, cette mère, est enceinte. Quand elle passe devant une maison d'études, elle sent son enfant qui veut sortir. Et quand elle passe devant une maison d'idolâtrie, elle sent que son enfant veut sortir. Elle se dit « où est la logique ? Si j'ai un petit renégat, bon, au moins j'ai un renégat, c'est pas grave, c'est mon enfant. Si j'ai un futur pilier de synagogue, j'ai un pilier de maison d'études, où est le problème ? Mais là, je n'arrive pas à comprendre sa cohérence. Alors elle va à la maison des grands sages de l'époque, on dirait de nos jours, elle va faire une échographie, et on lui dit, c'est la Bible qui le dit, « Chéné, Goïm, Vitner, il y aura deux grands peuples en ton sein, et deux de toi se sépareront. » Elle comprend qu'elle a deux enfants, l'un attiré vers l'étude, l'autre attiré vers l'idolâtrie, Jacob et Ésaü. Les deux naissent, Ésaü naît le premier, Jacob lui tient le talon, il le suit, oui. Et c'est l'aîné, donc Ésaü, qui lui s'intéresse uniquement aux choses du monde. Et là, on a deux frères qui sont jumeaux, qui ont des vocations non seulement différentes, qui auraient pu être complémentaires, mais qui sont opposées. Que les frères et les sœurs aient des vocations différentes, c'est une chose, mais elles sont opposées.
Mais c'est parce que ça couvre l'ensemble de l'expérience humaine à eux deux ?
En fait, ça va être une histoire des occasions de rencontres manquées. Et l'histoire de Jacob et Ésaü, pour moi, elle est extraordinaire, elle est même symptomatique de notre époque, parce que tout pourrait les rapprocher, et finalement, tout les oppose. Et c'est souvent le cas dans les peuples très proches, dans les gens, parmi les gens très proches, et dans les peuples aussi très proches.
Alors qu'est-ce qui les oppose ? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à se rapprocher ?
Première chose, Jacob est un étudiant, mais il est dans les tentes, il étudie. Il s'assoit dans les tentes, dit le texte. Et Ésaü est un chasseur. Alors moi, je ne suis pas chasseur, mais les spécialistes vous diront que le chasseur est quelqu'un qui est déterminé par le gibier. C'est-à-dire, il s'embusque. Si le gibier va à droite, il le suit à droite. Si le gibier va à gauche, il va à gauche. Autrement dit, son orientation, au sens profond du terme, est déterminée par un accident de la vie. Accident au sens étymologique, c'est-à-dire quelque chose de non prévisible. Alors que Jacob, lui, s'assoit dans la tente, définit ce qu'il veut faire, il se lève, il se met en route sur le chemin qu'il a tracé. On ne va pas plus loin et mieux si on trace d'avance la route, mais en tout cas, on n'est pas déterminé par des aléas, c'est-à-dire des accidents. Un jour, on raconte la Bible, parce que c'est dans le texte, Ésaü arrive de la chasse épuisé, affamé, et il voit Jacob en train d'avoir un plat de lentilles. Les commentaires disent pourquoi un plat de lentilles ? C'était le jour du décès de Avram, leur grand-père. Et donc, il fait un plat de lentilles, la tradition, pour la mort. Ésaü a faim. Et il dit à Jacob, donne-moi ce plat de lentilles, j'ai faim. Et il dit, mais tu sais, c'est pas un plat de lentilles. C'est le repas de commémoration de la mort d'Avram. Et donc, c'est la transmission. Moi, peu m'importe. La transmission, j'ai faim. Le verset dit, voici, je vais vers la mort, et à quoi me sert cette responsabilité ? Qui est dit, à quoi me sert l'aîné, d'être l'aîné. Alors Jacob lui dit, c'est pas compliqué, vends-moi ton droit d'aînesse et moi je te donnerai ce plat de lentilles. Toi tu veux le côté immédiat de la vie et moi je vais me garder cette responsabilité de la transmission. En fait, là où il y a une erreur d'Ésaü très grave, c'est qu'Ésaü vend le droit d'aînesse, mais dans le droit il y a aussi le devoir, vous savez. On oublie ça. Donc lui il a vendu que le côté devoir, en se disant, avec des responsabilités, je lui vends, peu importe. Mais quand plus tard il y a un droit attribué à cette responsabilité, à ce devoir, et ce droit c'était la bénédiction première du père, alors Ésaü est furax contre son frère, qui va ruser pour récupérer ce que juridiquement il a. Vous connaissez l'histoire ?
Oui, oui, absolument.
Où Jacob se déguise, c'est-à-dire que face à son père aveugle, il met une peau de bête bien poilue. Ésaü était poilu, paraît-il. Et donc Jacob met une peau de bête, et le père le touche, s'aperçoit qu'il est poilu, il dit c'est parfait. Et il commence la bénédiction en disant, tu parles comme Jacob, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Sur l'émission des mains, on avait fait il y a quelque temps, on aurait pu dire ça, c'est-à-dire que, et c'est une formidable bénédiction de Isaac pour son fils, il lui dit, garde ta voix, garde ta vocation, mais n'oublie jamais que si tu veux porter cette vocation, il faudra que tu sois capable d'affronter ton frère avec ses armes, ses mains. Et c'est vrai que si parfois on a une voix extraordinaire, c'est-à-dire on a des grandes idées, mais qu'on n'est pas capable de les porter, alors elles n'existent pas, ces idées. Que serait par exemple cette idée formidable de Canal Academy, sans l'énergie qui est la vôtre, l'énergie de Jean Cluzel, l'énergie de tous les techniciens. Non mais c'est vrai, il faut des mains pour porter une idée.
Bien sûr, oui.
Et Jacob entend ça. Et Jacob va se confronter à son frère avec ses armes. Pourquoi ? Parce que regardez, c'est extraordinaire. Il va aller, suite à ça, son frère est dans une rage folle, il veut le tuer. Il lui a volé sa bénédiction, pense-t-il, alors qu'en fait ça lui revenait de droit. Il veut le tuer, et sa mère lui dit, va chez Laban, mon frère. Et il y va. Mais Laban était l'archétype de la ruse et de la tromperie. Et quand il arrive, il va être trompé d'ailleurs. On ne peut pas affronter Laban sans... Il va lui donner la grande fille ou lui donner la petite dont il est amoureux, peu importe. Il va comprendre que pour affronter Laban, il faut qu'il soit capable d'utiliser la ruse qu'il a acquise en affrontant pour la première fois Ésaü. Et l'idée de jumeaux, c'est les mêmes origines, mais des choix différents. Or les jumeaux, dit-on, ont vocation à se rapprocher. Et je pense qu'un jour viendra où symboliquement la spiritualité d'Ésaü rejoindra la capacité qu'avait Jacob à transcender la matière pour la faire redevenir spirituelle. Ésaü est dans un monde où ce qui est matériel, ce qui est spirituel est spirituel.
Il fait une dichotomie des deux.
Absolument. Alors que Jacob, lui, est dans la transcendance du matériel vers le spirituel. Symboliquement, de nos jours, vous prenez ce verre d'eau, je bois le verre d'eau, c'est de l'eau, c'est du matériel. Quand je fais une bénédiction juste avant, chaque juif qui mange quelque chose ou qui boit quelque chose fait une bénédiction avant. En faisant la bénédiction, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné ça, je transcende l'eau pour en faire l'outil d'une reconnaissance de la grandeur de Dieu qui me donne tout. C'est simple, mais en même temps, c'est essentiel à la vie. Ésaü porte cette spiritualité parce qu'il la tient de ses parents de la même façon que Jacob. Simplement, lui, il veut séparer son corps, c'est-à-dire le matériel, et tout ce qu'il peut faire avec, du spirituel. Et Jacob demande la cohérence entre le spirituel et le matériel. Viendra un temps où chacun trouvera sa place, car l'un a besoin de l'autre. Et la Bible nous dit que si Jacob avait espéré un peu plus en son frère, au lieu de se séparer complètement, il aurait peut-être pu le ramener à la vision des patriarches. Dans l'histoire des jumeaux, je dirais que c'est une histoire qui n'est jamais finie et qui demande qu'à s'accomplir au sens qui demande qu'à permettre aux deux de retrouver leur vocation commune. Peu importe si l'un ou l'autre se perd, à un moment, ils se retrouveront. C'est ça, l'idée des jumeaux. Et ce monde ne pouvait venir que de jumeaux. Regardez que dans l'histoire reconstruite de la Rome mythique, ils viennent de jumeaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette idée d'une dualité qui est une. En fait, le jumeau, c'est plus qu'un frère, c'est celui qui est le même mais qui est différent. Ou qui, malgré ses différences, est malgré tout absolument le même. Est-ce que finalement, ce n'est pas une façon de dire que toute humanité est jumelle au sens que, si on remonte, on a tous les mêmes ancêtres, mais c'est-à-dire que chaque humanité est différente et pourtant elle est la même.
Merci à Haïm Korsia de cette explication à propos des jumeaux. À bientôt pour une autre émission,
j'espère. Bientôt.